Aussi bien en tant qu'entreprise qu'en tant qu'individu sur le marché de l'emploi, il y a un opérateur incontournable ces 20 dernières années, LinkedIn. Et ce dernier commence à être contesté pas uniquement pour sa position très privilégiée, mais pour ses développements récents et la structure de son actionnariat. Pour parler d'un sujet qui concerne aussi bien la publication volontaire de données personnelles très sensibles que le fait de construire un réseau alternatif face à un géant américain, il se trouve qu'un de nos contacts a construit très vite un prototype de service alternatif qui connaît une croissance spectaculaire. Nous l'avions déjà interviewé dans notre émission sur sa manière de révolutionner une entreprise de l'intérieur. Nous recevons donc par satellite Pablo Pernaud, agent provocateur, terroriste mercenaire né à Cuba, marxiste tendance Groucho, membre du Banjo Vista Social Club et donc développeur fondateur du service réseau social ponos-job.eu.
CPU, carré petit utile.
Bonjour Xavier.
Pablo, nous t'avions donc déjà reçu pour ton manuel « Révolutionner une entreprise ». Cette fois-ci, nous parlons de réseau social professionnel. Forcément, on va commencer par le début. Avant LinkedIn et Viadeo, on faisait comment ?
Avant LinkedIn, Viadeo, c'est un temps dont on a du mal à se rappeler. Je pense qu'on fait exactement comme aujourd'hui et que LinkedIn et Viadeo masquent cela. C'est-à-dire, c'était du réseau. C'était réseau, connaissance, et puis voilà. Et en fait, finalement, LinkedIn n'absorbe que le surplus dans un sens ou dans l'autre.
Mmh. Où es-tu arrivé en premier et quand ? Sur LinkedIn ou sur Viadeo ?
Alors, je crois jamais avoir eu de compte sur Viadeo, mais ça doit probablement être un arrangement de mon cerveau. J'ai dû avoir un compte Viadeo, je suppose. Mais j'en ai strictement aucun souvenir. Je crois vraiment que c'est LinkedIn, mon premier... J'ai pas eu de Viadeo.
Et pourquoi, en bon natif de Cuba, marxiste grouchouiste et troublemaker consultant, vouloir faire exploser l'ordre établi ?
Alors, d'abord, je fais une parenthèse. Pourquoi est-ce que Xavier, à chaque fois, fait mention de Cuba ? C'est parce que je suis né à Cuba, parce qu'il se trouve...
Mais je l'ai dit en intro ! Je l'ai
mon
dit !
Père, il se trouve que mon père travaillait pour Honeywell Bull, quand même, à Cuba. Et donc, les circonstances ont fait que... Alors, je cherche pas à être révolutionnaire, je cherche à être protecteur, entre guillemets, comme beaucoup de gens. Il n'y a absolument rien d'original dans ma démarche. Je pense qu'on a tous très envie que l'Europe regagne un peu d'autonomie, et c'est là-dedans que ça s'inscrit.
Tu as annoncé en janvier 2026 l'ouverture de ton service ponos-job.eu, et c'est marrant, mais dans la même heure, j'avais exprimé mon désarroi sur ce qu'était devenu LinkedIn sur LinkedIn. Je m'autocite... Masquer today's puzzle, masquer add to your feed, masquer les posts que tu montres car likés par des comptes que je suis vaguement, masquer les posts écrits avec une IA, masquer les posts avec une illustration par IA, masquer les incitations à abonnement, afficher les URL réelles des liens externes, pas le raccourcisseur d'URL, réduire la longueur des URL internes en supprimant le query dans copyline to post. Non mais pitié, y a-t-il une seule personne qui fasse attention au confort d'usage chez LinkedIn ? Y a personne non plus pour se poser la question du démarrage escargotesque de chaque page quand on navigue dans leur site ou qu'on ouvre plein de liens dans des onglets ? Il n'y avait pas comme un ras-le-bol général de l'enchitification de LinkedIn par hasard ?
Ah, mais je pense que, encore une fois, je te dis, il n'y a rien d'original là-dedans. Tout le monde se plaint de LinkedIn et c'est devenu une aberration. D'ailleurs, je crois qu'à un moment dans les formations, tu parlais de lenteur là, je crois que dans les formations, je ne sais plus dans quelle formation, dans quelle conférence, je crois que LinkedIn, ça embarque des mégas et des mégas de JS en front. C'était l'exemple du bloat.
Du bloated, c'est hallucinant.
Mais bon, au-delà de ça, le contenu est devenu... Puis en plus, la période est tendue, c'est-à-dire que le marché de l'emploi s'est inversé. Donc tout d'un coup, t'as plein de gens qui cherchent du boulot et ils se retrouvent sur cette bouse où tout le monde fait du marketing gluant. Donc rien d'original, je pense que une grande majorité en a très très marre de LinkedIn.
Et il y a eu un démarrage explosif des inscriptions, ça montrait qu'il y avait un gel stack, ton projet arrivait au bon moment avec les questions sur la vie privée, sur le couplage d'un service américain en contexte très tendu. À l'heure où nous enregistrons, on est donc le 3 mars, donc à peu près 60 jours après l'annonce publique du lancement de ton service. Combien de personnes l'ont rejoint, se sont inscrits dessus ?
Alors, je pense que j'ai annoncé le service fin janvier, donc peut-être beaucoup moins que 60 jours, 40 jours, je pense. Là, j'ai 540 inscrits, mais c'est vraiment pas beaucoup. il y aura très peu de chances, il faut se dire, il y aura une chance sur mille que ça aboutisse à quelque chose de viable. Et en plus, c'est, je pense aussi quand même pas mal d'inscriptions, pas factices, mais comme il y a un connecteur Mastodon et un connecteur Blue Sky, c'est assez facile de venir s'authentifier, de jeter un œil et de repartir. Mais bon, c'est pas grave. C'est un peu, je m'amuse à penser que c'est comme Cthulhu qui dort au fond de la mer. Tout d'un coup, il faut avoir des alternatives. Si tout d'un coup il y a un blocage américain et qu'on a besoin de tout d'un coup montrer qu'on est prêt.
Pono s'est développé en vibe coding, la programmation déléguée à de l'IA générative n'est pas le sujet de cette interview et de cette émission, donc je ne vais pas m'y attarder. Je comprends ce choix pour bootstrapper un projet, mais c'est à la base parce que tu voulais faire depuis un bail un nouveau réseau social ou parce que tu avais besoin d'un exercice comme un autre pour te lancer en vibe coding?
Les deux, mon colonel. C'est depuis un ou deux ans que tout le monde se dit il y en a marre de LinkedIn. J'en avais parlé avec des copains, j'avais dit qui veut m'aider à le développer. J'avais eu deux compagnons, un Toulousain, au passage, qui m'avait dit « Oui, go, mais bon, merde, on a besoin d'être financé un peu pour ça, parce que ça va nous prendre du temps. » J'avais même regardé un peu si je pouvais trouver des financements, mais je l'avais pas trouvé, donc on avait laissé tomber. Et là, tout d'un coup, le vibe coding m'a donné l'opportunité de me lancer seul, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets, de me lancer seul, après, à voir ce que ça devient.
Et pourquoi un nom de domaine si compliqué, ponos-job.eu?
Alors d'abord, je voulais prendre un truc européen. J'étais parti sur un nom irlandais, je sais pas comment ça se prononce, c'est du gaélique souvent, Chaili, en fait, les vieilles langues européennes. Puis ça, je trouvais que ça faisait cucul après une groupe irlandais, Balmusette. Et finalement, je suis revenu sur un truc qui me ressemble beaucoup. Moi, je mets toujours des noms de dieux ou de trucs de mythologie grecque dans mes serveurs. Tous mes serveurs portent des noms. Et donc, à un moment, je me dis, tiens, c'est vrai, bah allons-y, c'est quoi le dieu grec du boulot, quoi? Et il n'y a pas de dieu grec du boulot. Enfin, il y en a un, mais c'est le côté besogneux, chiant, dur du boulot. C'est pas aussi. Je me suis dit, ah, finalement, parce que t'as le dieu grec des gens qui travaillent dans les champs, t'as le dieu grec des gens qui naviguent sur les mers, c'est ça leur dieu du boulot. Mais le dieu du boulot, c'est-à-dire la besogne, c'est Ponos. Et je me suis dit, ah, tiens, c'est pas con, Ponos. Et après, Ponos était déjà pris d'ailleurs par une boîte qui fait je sais pas quoi. Donc j'ai rajouté Job et je me suis dit que c'était pas plus mal pour bien repérer le sens du produit. Enfin, du produit, c'est pas un produit de l'initiative.
Revenons au basique. Viadeo a été lancé en 2004, quelques mois après LinkedIn. Il a été très puissant en France jusqu'au milieu des années 2010, mais sa particularité par rapport à l'époque à LinkedIn, c'était la plateforme numéro 1 du e-branding en France avec des publications formidables de commerciaux qui ont des cheveux plus brillants. Depuis, ces chercheurs de réputation sont passés à LinkedIn. Ponos peut-il se prémunir ou veut au contraire veut voir venir ces chercheurs de e-reputation?
Alors, c'est pas le but. J'aurais pas, ça serait pas une bonne nouvelle. C'est quand même ça qui a foutu, enfin, c'est une partie des trucs qui a rendu dégoulinant LinkedIn. Je sais pas si c'est parce que je suis has-been et vieux ou si c'est parce que c'est ça qui me plaît, mais je veux un truc très succinct, direct sur l'objectif. On se tient au courant de ce qu'on fait professionnellement pour entretenir le réseau et trouver du boulot, point. Mais oui, d'où les limitations, pas de like, pas d'émoji, pas d'image. Et des messages courts que l'on me reproche beaucoup au passage.
De toi à moi, franchement, qu'est-ce qu'il y a de bien sur LinkedIn? Quel est le truc justement que tu te dis, ouais, ça c'est franchement bien et c'est ce qui me fait revenir?
Le truc sur LinkedIn que les gens utilisent, c'est personne ne va voir les publications, personne ne va voir son fil. Par contre, tu vas faire un message direct à quelqu'un parce que, je sais pas, moi j'ai 6000 connexions, donc forcément les copains sont là. Mais c'est devenu une aberration parce que avec le renversement, alors avant LinkedIn c'était là tous les commerciaux qui chassaient parce qu'on avait du mal à trouver des profils, donc tout le monde venait se faire chasser sur LinkedIn. Maintenant c'est l'inverse, tout le monde vient essayer de trouver du boulot sur LinkedIn, et du coup tous les gens qui ont potentiellement du boulot ne viennent surtout pas voir LinkedIn, parce que dès qu'ils ouvrent leur LinkedIn, j'imagine que leur boîte aux lettres elle explose, que leur messagerie explose, etc. quoi.
Pablo, justement, on renverra sur ta fiche LinkedIn parce que malheureusement nous dénonçons dans cette émission. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Pablo Pernaud, développeur fondateur du réseau social professionnel ponos-job.eu, pour parler justement de ce type de service. Donc, nous avions parlé des bons points, mais pourquoi faire comme le roi Lot, tout cramer et repartir sur des bases saines?
Déjà, je vois pas comment je pourrais faire autrement. Ce qui pourrait arriver, c'est de la législation au niveau européen qui contraigne plus, parce qu'elle commence des services comme LinkedIn. Ça, ça pourrait arriver. À mon niveau, je peux juste voter ce que je fais. Mais je travaille pas au-delà sur la législation. Et puis, je te rappelle quand même que c'est une expérimentation, même si c'est pas le sujet, c'est un mélange entre une grosse irritation sur un produit qui nous dérange tous et qui est crucial, et qui n'est que américain, il n'y a pas d'alternative européenne, plus une expérimentation de jusqu'où je suis capable d'avancer avec de l'IA sans regarder le code, ce qui était l'intitulé de mon expérimentation. Mmh. Ce qui a aussi choqué beaucoup de gens, mais bon. Il faut de la législation sur le plan européen si tu veux contrôler ces services préexistants qui ont un avantage définitif presque, qui est le nombre de gens inscrits. S'il n'y a pas de blocage au truc, des initiatives comme Ponos ont très 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 peu de chances d'aboutir, parce que la difficulté n'est pas de fabriquer le produit, la difficulté est d'atteindre et d'avoir une masse critique de personnes. Donc pour lutter contre des choses contre LinkedIn, la vraie lutte c'est législatif et l'ouverture de leur système et la sécurisation de nos intérêts dans leur système, nos intérêts européens.
C'est assez amusant quand même que l'on aille vers ça, mais finalement, au sujet de notre dernière émission, est-ce que tu n'as pas un risque de recréer le culte du cargo ?
Qu'est-ce que tu imagines comme culte du cargo ? Qu'on refasse refaire un truc à l'identique.
Ouais, en espérant soit le succès, soit arriver finalement à nos buts, etc. Mais louper peut-être le truc qui faisait qu'on ait envie d'y aller. Et ne pas comprendre finalement ce qu'on fait vraiment.
Oui, oui. Alors en tout cas, là, j'ai pas fait d'effort, et je le dis, hein, je le clame, j'ai fait aucun effort d'innovation produit, dans un sens. C'était pas le but de l'exercice. Là, c'était deux options, sécurisation d'un réseau social professionnel européen, en tout cas qui ait des alternatives, dont la mienne, parce qu'il y en a d'autres, et de Zio, donc on parlait de Vibe Coding. Mais pas, je suis pas en train de me dire, j'ai pas cherché un problème d'usage, et j'ai pas cherché à révolutionner un usage et à trouver une autre façon de le faire. Donc oui. Et puis, et ça tombe au pire moment. Tout le monde a envie de se séparer de LinkedIn parce que c'est le moment, et ce sera peut-être définitif, que le marché de l'emploi est en crise. En tout cas pour les cols blancs. De LinkedIn. C'est le moment où presque on en a le moins besoin. Enfin, c'est le moment où on a le plus besoin, mais c'est le moment où il y a le moins d'offres d'emploi. Donc en fait, il est très, 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 très pauvre.
Un autre projet de réseau social professionnel basé en Europe et open source existait avant ton projet Ponos, et on vient d'apprendre sa fermeture. Je parle de Nolto.social. Tu as pu discuter avec son développeur, d'après ce que j'ai compris. Ouais. T'étais au courant avant ce qu'il avait fait, ou tu l'as découvert après ?
Non, j'ai découvert après, en fait. Et c'est là où je confirme, ça confirme que c'est vraiment pas une idée originale, et qu'en plus, il y a un faisceau de convergence. Qui est, on en a marre de LinkedIn, et on a l'IA qui nous permet de, les gens en mode entrepreneur, qui nous permet d'être autonomes. C'est un Danois ou un Finlandais, Jonathan Ensenti. J'ai parlé très rapidement avec lui, et effectivement, c'est Lovable, je crois, hein, cet outil, cette plateforme, qui lui a permis, lui, non développeur, de se lancer dessus. Et lui, il est parti directement sur l'option, un mastodonte alternatif, un Activity Pub, réseau professionnel. Et il s'est arrêté, si j'ai bien compris, parce qu'il en a pris plein la figure. Il faut bien comprendre qui c'est. Et je le vois, moi,
Tu veux dire que, comme d'habitude, le monde libriste est extrêmement bienveillant, avec des guillemets partout.
Voilà, c'est exactement ça qui s'est passé. Quoi, tu l'as développé avec de l'IA, donc, comme d'habitude, quoi. Tous les gens qui ne font rien, qui passent leur temps, surtout, faut pas que ça arrive. Cette gauche qu'on adore, qui préfère détruire que construire. Non, c'est mon point de vue à moi, très personnel.
Et ça veut dire surtout que je pourrais le diffuser qu'après les municipales. Ça tombe très bien, c'est le moment de la diffusion qui est choisi. Justement, en guise de message de fermeture, on a « Nolto was never meant to grow ». Est-ce que tu comprends le message ? Attends, je te le traduis au cas où. Hein. Nolto n'était pas censé grossir.
Alors, je vais avoir la prétention de penser que j'ai peut-être influencé ce petit bout de message, parce que dans le peu de discussions que j'ai eues avec Jonathan... À un moment, quand il s'est pris dans la figure toutes ces personnes et que... je sais pas les messages qu'il a eu exactement. Mais à un moment, il a fermé, il a essayé de rouvrir, il a refermé, et puis il a essayé de constituer un groupe pour travailler avec lui sur Nolto. Il m'a proposé de le rejoindre. Je lui ai dit non, moi je fais une expérimentation. C'est très bien d'appeler ça expérimentation. Comme ça, justement, ça nous enlève un poids d'enjeux, de plein de choses. Et j'ai eu un peu un écho de cette conversation dans « Was never meant to grow », parce qu'à mon avis, c'était prévu pour grossir, initialement, quand même, son truc. Mais écoute, je ne sais pas. Si je fais le parallèle avec moi, c'est une expérimentation, et on ne sait jamais. Il y a plein de trucs où ça part comme ça, et ça va, et ça délivre quelque chose. Il y a plein de moments où ça délivre rien, et ça reste une expérimentation.
Quelle était la taille de sa communauté ? Lui, ça a tourné 2 ans, je crois, hein, donc ça a plutôt
bien tourné. Non, ça a commencé cet été.
Ah, et d'accord, ok.
Vraiment, il faut comprendre, comprendre que c'est devenu possible parce que à partir de cet été, les IA ont atteint un niveau, à mon avis, ont atteint un niveau d'autonomie et de qualité qui ont permis à des gens, sans regarder le code, de développer des choses. Donc ça avait démarré en juin. Comme il était ActivityPub, je l'ai vu très vite grossir, je crois qu'ils étaient 800-900, hein. D'inscrits. Mais c'est la même chose. J'aimerais compter la réussite de Ponos en nombre de jobs trouvés. 0 aujourd'hui, à ma connaissance. Je sais pas, Nolto, combien il a eu de jobs trouvés.
Et pour faire fonctionner un réseau social comme cela, ça veut dire quand même qu'il faut des serveurs. Qui paie les factures actuellement?
Aujourd'hui, c'est moi et c'est pas énorme. Aujourd'hui, j'ai pris un abonnement sur Always Data, que j'aime bien. C'est des gens sympas, compétents. Un petit abonnement qui doit me coûter 20-25 euros par mois, mais parce que j'ai la chance de que c'est pas successful. Si tout d'un coup ça grossit, il va falloir plus, mais c'est pas grave, parce que si vraiment ça grossit, ben là je demanderai à des gens de payer 5 euros par-ci par-là, ou de tous les gens qui trouvent un job, si ça marche, tous les gens qui trouvent un job, ils mettent 5 euros, et puis voilà. Donc je dois payer aujourd'hui l'hébergement. J'ai une défaillance dans mon stack technique, c'est le serveur de mail, c'est un serveur américain. Il faudrait que je le change. Là, je le paye pas parce qu'il est en dessous largement de du freeware du début, quoi. Mais à partir d'une certaine limite, il faudrait que ça se paye, un serveur SMTP comme ça. Ou sinon, je le déplace sur un autre serveur. Mais oui, si tout d'un coup ça se met à grossir, il faudra un peu. Soit je décide de sacrifier une partie de mon portefeuille, de mon argent, de mon portefeuille. Pourquoi pas? Mais si vraiment ça a du succès, oui, je peux pas le tenir seul. Ça demande trop de ressources.
Et tu préférerais que ça soit comment? Par la pub, par l'institutionnalisation, par les petites annonces payantes, par un actionnaire qui est prêt à faire fonctionner en déficit une paire d'années?
Je pense qu'un bon système serait le système de Framasoft, une association financée, quoi. Ça me paraît sain. Enfin, le système Framasoft me paraît sain de ce que j'en vois. Après, je suis pas à l'intérieur. Je donne de l'argent à Framasoft tous les ans. Donc, j'imagine que d'autres seraient prêts à en donner. S'il y a vraiment un service européen... Qui permet de trouver du boulot sans être suivi, sans aucun tracking sur le site. Enfin,
sachant que Framasoft n'est pas censé faire de l'hébergement, il est censé aider à faire des outils pour l'auto-hébergement.
Ouais. Oui.
Donc
non,
ça veut dire qu'on décentralise.
Ouais. C'est pas la même chose. Tu me parlais de financement, je te disais, on fait une association et on reçoit des dons associatifs. Quoi.
Et est-ce que tu penses qu'une app serait obligatoire ou serait envisageable?
Un de mes fils, qui vient de sortir de l'épithèque et qui se prend la vague de « on n'a plus besoin des jeunes, maintenant on a l'IA de plein fouet », a pris le temps de rapidement me faire un sort de conteneur flotteur. Donc en fait, t'as une petite app sur Android qui est un conteneur flotteur. J'ai vu que pour iOS, c'est exactement la même chose. Je pense que c'est...
Ouais, c'est une WebView, quoi. C'est-à-dire, voilà...
C'est une WebView, ouais. Une WebView. Je pense que ça suffit. Mais c'est important peut-être de l'avoir parce que les gens ont leur troisième bras là ou leur troisième main, c'est leur téléphone. Hein, et donc, si vraiment à un moment ça a besoin de démocratisation, oui, ça doit passer par une app, même si ce n'est qu'une WebView.
Pourquoi ne pas essayer d'en faire un concurrent à la Pearltree ou LinkMe? C'est-à-dire, voilà ma présence sur le net, voilà où vous pouvez me retrouver, et voici comment vous pouvez me contacter. Et que ça soit unifié et qu'on puisse faire à partir de là, justement, entre guillemets, du graphe professionnel à partir de là.
Ça pourrait. Je vais arriver dans une période intéressante, à mes yeux. Au début, c'était une expérimentation où je me dis, l'IA a vraiment franchi un cap. Est-ce que maintenant, je suis capable d'être complètement autonome sans regarder le code? Et prenons le sujet qui gratte depuis 2 ans, LinkedIn. Go. Mais pas de réflexion produit. Parce que finalement, LinkedIn, tu reprends un truc, tu sais à peu près où tu vas aller, c'est assez rapide. Et là, maintenant, je vais arriver au moment que... j'ai pas eu de blocage. Alors, j'ai pas eu de blocage, mais pour avoir un blocage sur la charge, sur l'infra, sur la sécu, enfin, c'est ça qui... Tu vois, grossir, ça m'intéresserait pour ça. Pour voir jusqu'où j'ai embarqué des trucs pas propres, etc. Mais maintenant, je vais arriver au moment où je vais me dire, où la réflexion produit va arriver finalement. Et c'est à ce à quoi tu réponds là. Et oui, ça peut être une option. Mes premières pistes, c'est toujours une sorte de validation technique. Jusqu'où je peux me brancher sur ActivityPub et Mastodonte? C'est pas si simple que ça. Parce que je veux pas en faire un serveur Mastodonte, mais je veux me brancher sur ActivityPub. Donc c'est un truc un peu hybride.
Il faut bien discerner les deux. Et d'ailleurs, Mastodonte est très critiqué par les développeurs qui font de l'ActivityPub parce que justement, il n'est pas très compatible.
Ouais, voilà. Donc en fait, je peux faire l'ActivityPub, je suis complètement compatible avec l'ActivityPub, mais par contre, les gens qui se disent c'est comme Mastodonte, c'est un serveur en plus, mais qui est teinté de job, ils s'y retrouvent pas parce que c'est pas le cas. Faire un proxy Mastodonte, pour le coup, c'est une beaucoup plus grosse infrastructure. Mais bon, j'ai testé ces connexions, je voudrais tester des connexions Blue Sky, je voudrais tester de la réplication pour avoir du load balancing, pour dire, tiens, quelqu'un veut, le code est open source, même s'il est mal codé, il est open source, c'est une autre grosse question qui a été levée par ce projet. Tiens, tu veux monter ta plateforme, ok, ben vas-y, tu la dupliques. Est-ce que finalement c'est localisé, t'as la plateforme allemande et la plateforme française et c'est pas le même contenu, ou est-ce que c'est le même qui se fait du load balancing? Est-ce que c'est ce que tu évoques, là, les produits que tu évoques, c'était une présence avec une sorte de confirmation en ligne, et ça serait pas con du tout. Je pense que ça correspond plus à la période et à l'état d'esprit pour lequel j'ai imaginé Pono, c'est un truc très minimaliste à l'essentiel, quoi. Ça va peut-être arriver. Je note l'idée.
Ou pourquoi pas un provider d'identité, un SSO.
Oui.
Pour l'audio description, je tiens à préciser que l'individu est en train de se gratter la barbe et de faire des grimaces en bougeant ses maxillaires avec ses doigts.
Avec LinkedIn, je suis sensible au problème il faut trouver un boulot. Et je vois plein de gens qui cherchent, etc. La validation d'identité, j'ai l'impression déjà qu'il y a des services qui existent, qui font bien le taf. Donc j'y suis moins sensible, mais pareil, hein, je vais rentrer dans la période où je vais commencer à penser produit, et tiens, ça serait quoi plutôt valider un parcours ou montrer un parcours. Tu vois, un peu les deux, en fait, le mix des deux choses que tu as abordées. Oui. Ça nous amène à la question suivante, peut-être.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile. Nous sommes avec Pablo Pernaud, développeur fondateur du réseau social professionnel ponos-job.eu, et lui-même se posait une question.
Oui, parce que tu m'interroges sur des pistes produits et je te réponds en disant je, et forcément, il y a une autre question qui est arrivée très rapidement avec Ponos, c'est mais tu le fais seul, tu restes seul? C'est bien parce que ça amène des questions sur la taille des équipes nécessaires, et elle se réduit drastiquement quand c'est une expérimentation de vibe coding. Donc oui, moi j'aimerais avoir un groupe autour de moi, naturellement, parce qu'on réfléchit mieux à plusieurs, je veux pas tomber dans les poncifs à la con des coachs agiles. mais par contre, les gens me disent, pourquoi tu prends pas un développeur? Ah non, surtout pas de développeur, j'en ai pas besoin d'un développeur. Par contre, j'aurais peut-être besoin d'un, justement, quelqu'un qui pense, alors soit des gens pour penser le produit, ça c'est une chose, soit des gens pour couvrir des choses où je me sens à l'aise, mais pas spécialiste ni expert. L'UX, l'infra, l'architecture. Tu vois, ça, je peux avoir des regards de mentoring. Ça peut être intéressant. Donc, si demain je dois équiper, je sais pas si c'est le bon terme, ça fait très outil alors que c'est des humains dont on parle, mais d'un côté des réflexions produits, de l'autre une couverture du spectre UX, archi, infra, pour des garde-fous. Voilà.
On parle quand même de données personnel, l'une des critiques justement vis-à-vis de LinkedIn, voilà, c'est que derrière c'est Microsoft, c'est hébergé aux États-Unis, ça correspond justement à toutes les lois que Washington peut imposer à partir de là, avant même de penser au risque de coupure du service vis-à-vis de l'Europe. Est-ce que tu comprends que développer en vibe coding puisse refroidir notamment sur les questions de sécurité des données?
Non. Non, parce que ce que j'observe, je ne fais qu'accompagner des équipes de développement et j'observe pas de... Le dommage sur la qualité des données est voulu, il est demandé, il est spécifié et c'est pas le développement... Enfin, non, au contraire. D'ailleurs, toutes les données qui... ça fait... Peut-être que tu l'as naturellement remarqué, depuis 3 à 6 mois, t'as une fuite de données monumentale partout de tous les services, et c'est l'IA qui s'amuse à défoncer tout le site. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu la dernière pub de Anthropic, c'est « Ah tiens, on a testé, on a trouvé plein, avec Opus 4.6, on a trouvé plein de trous de sécurité dans des projets open source, on leur a dit en off ». Enfin bon, en gros, c'est non, je crois que ça pose pas de problème technique sur les données. Le problème des données est un problème produit politique. Juste pour revenir, puisque tu parlais de la bienveillance de la communauté, c'est très intéressant parce que tu sors le service et naturellement je suis pas expert en tout, donc je montre et je dis, regardez, c'est RGPD, on peut supprimer tout son compte et je stocke rien. Tu vois, le truc de l'enfant de 8 ans, ça suffit pas. Et forcément, j'ai un spécialiste RGPD. D'abord, la première remarque, c'est « Putain, t'es vraiment un nul, c'est vraiment honteux de faire ça, il manque ça, 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 ça et ça. » C'est super parce que j'apprends. Il manque ça, 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 ça et ça. C'est dommage que je reçoive un message dur comme ça, mais c'est pas grave, tout le monde est tendu. Mais c'est intéressant parce que, justement, là maintenant, j'essaye de me débrouiller que mon développement vibe coding n'ait plus du tout accès aux données de prod. Et que si j'ai le besoin de rapatrier une base de prod parce que j'ai un bug qui est compliqué, je mets en place des scripts d'anonymisation. C'est pas l'IA qui me fait l'anonymisation, c'est des scripts qu'elle a fabriqués qui m'anonymisent avant d'eux. Et j'en suis qu'au tout début. Donc en fait, mais c'est le classique produit. Et au début, ton produit, c'est 95% de ton truc et ton infra DevOps sécurité, c'est 5%. Et puis, très rapidement, ça s'inverse. Et ton produit, c'est 5%. Fonctionnel, c'est 5%, la sécurité, les données, l'hébergement, la haute disponibilité, ça prend les 90%, quoi.
Puisqu'on parle d'un service de représentation professionnelle de personnes physiques et morales, un péril est à prendre en compte, le risque d'usurpation d'identité. Alors, comment s'en prémunir? Pourquoi pas avec le système de handle lié au nom de domaine, comme Blue Sky Ad Proto?
Ouais, je sais pas encore, j'ai pas... Ça serait un signe de succès.
Ça va faire mal. Hein.
Et tu vois, ça serait un signe de succès. Ça veut dire, mais ça, c'est typiquement du product management dans un sens. Tu traites la question quand tu vois que quand elle est au dernier moment responsable, au moment où elle va arriver. Mais ça sert à rien que je la traite aujourd'hui. Mais oui, tu parlais des frais tout à l'heure. Je me suis tout de suite posé la question de la double authentification. Et là, ça engendre, si je commence à envoyer des SMS, là, ça va m'engendrer des frais aussi. Donc non, pour l'instant, pas traité. Et pour l'instant, j'ai largement le temps de voir les gens s'inscrire et de regarder qui s'inscrit. Et bon, après, tous les acronymes que je reconnais pas, c'est des gens qui viennent de Mastodon ou de Blue Sky. Ouais, pour l'instant, pas traité. Ça peut être un problème, mais ça sera un problème de riche, comme on dit. Ça veut dire que il y aurait eu assez d'attraction sur le service pour que on ait besoin de traiter ça.
Ponos, s'il garde ce nom, doit-il être un accélérateur de recrutement, de contact, d'affaires ou d'ego? Et je ne te demanderai de ne choisir qu'une seule réponse.
Alors déjà, ego, tu peux oublier, mais t'as dit quoi les trois autres? Contact, recrutement ou d'affaires?
Ouais.
C'est compliqué parce que les trois sont très entremêlés. Tu vois, au début, j'avais mis un titre qui était offre d'emploi. Et puis finalement, je l'ai rappelé mission. Parce que en ce moment, comme c'est quand même un outil IT, mon origine, puis les gens qui viennent se connecter sont quand même majoritairement des gens IT. Il y a un flou aujourd'hui qui apparaît entre mission et emploi parce qu'on se rend compte, par exemple, que les ESN, elles embauchent beaucoup moins et qu'elles sous-traitent beaucoup plus des freelances alors qu'avant, elles voulaient pas faire ça. Je te le redis, moi, ma mesure de succès de Ponos, c'est le nombre de gens qui ont trouvé un boulot, donc emploi quand même.
Comment faire venir, du coup, les offres d'emploi sur Ponos? Et comment faire débarquer les recruteurs, du coup, dessus?
À mon avis, aujourd'hui, c'est très très dur parce que les recruteurs sont... Ils disent, tiens, au fait, j'ai peut-être blâme. Ils reçoivent 250 CV. Donc, pourquoi faire un effort de plus? Ce que l'on pourrait imaginer à l'avenir, mais Ponos n'y répond pas bien aujourd'hui. Enfin, il y répond d'une certaine façon. Ce qu'on pourrait imaginer à l'avenir, c'est d'avoir, si on reprend un peu l'idée ActivityPub, décentralisation, fédération, tu pourrais avoir pas mal de serveurs type Ponos avec des spécialisations. Là, t'as tous les gars ou toutes les nanas hein, ensemble qui aiment ce type de choses et qui font ce type de boulot et tu viens les chercher là. Là, je pourrais dire aux recruteurs, si vous venez chercher sur Ponos, ben déjà, vous avez normalement un ensemble d'early adopters. Vous avez des gens qui ont des convictions, qui ont quitté LinkedIn, qui en ont marre de LinkedIn, et qui sont prêts à essayer un nouveau service. Donc, ça décrit déjà des profils qui peuvent les intéresser pour ces raisons-là. Après, qu'est-ce qui ferait venir les gens sur Ponos? C'est ça ta question initialement. C'est une guerre commerciale États-Unis-France, et demain, une rupture du service LinkedIn, ou tout d'un coup... Au fait, votre service LinkedIn est utilisé pour votre entrée aux États-Unis ou pour surveillance avec je sais pas quoi. Et là, tout d'un coup, levée de bouclier, cotter, urgence, crainte, et on bascule sur autre chose.
Est-ce que tu as établi une charte sur l'avenir de Ponos, par exemple pour éviter les dérives comme LinkedIn ou pour dire, bon ben voilà, quelle est notre charte de moralité?
Non, et je crois que c'est factice de faire une charte... Je pense que ça tient aux personnes et que ces personnes, elles peuvent écrire une charte et finalement, bip, le bip avec. Elles peuvent ne pas respecter la charte. Je pense qu'il faut plus se protéger. Il faut une ouverture, c'est-à-dire de façon législative. il faudrait que les gens puissent basculer de LinkedIn à Ponos, et puis de Ponos à Nolto, et puis de Nolto à autre truc. On peut plus dire X, parce que X, c'est une connerie à côté, maintenant. Mais basculer à plein de services sans être tenu par mon compte et mes contacts. C'est-à-dire, demain, je suis chez LinkedIn, je vais aller chez Ponos, ben j'embarque mes 6000 followers. Demain, Ponos, ben tiens, j'ai plus confiance en l'équipe Ponos, je veux basculer chez... Nolto, hop, j'embarque mes 6000 followers.
Ça irait si, effectivement, non seulement on a de la réversibilité, mais on a des standards universels absolument précis sur les graphes sociaux, la description d'un CV et tout le reste. Donc, il y a quand même encore beaucoup
moins,
à faire.
Embarquer tes contacts, tu vois. Au moins leur dire, t'embarques pas ton CV, mais t'embarques tes contacts, t'embarques pas tes messages, mais à un moment, tu le déplaces. Donc, faire une charte qui garantit que Ponos va rester... Moi, je dis, il faut regarder le parcours des gens et les actions des gens, pas ce que les gens disent. Comme d'hab, faut pas écouter ce que les gens disent, faut regarder ce qu'ils font. Un parcours, ça parle. Et une charte, tu vois, c'est exactement comme les valeurs en entreprise. Il y a des entreprises qui les respectent énormément, qui les vivent. Il y a des entreprises qui les affichent. Et puis, voilà, c'est comme un post LinkedIn.
Quel est ton plan de route ? Surprendre les utilisateurs et la concurrence en dévoilant les nouvelles fonctionnalités quand elles seront shippées ?
Non, malheureusement ou heureusement, je pensais pas que, je vais reprendre le terme expérimentation, je pensais pas que l'expérimentation déjà aille si vite et si loin. Et donc je suis plutôt pris de court, entre guillemets. Je vais arriver dans cette période où je vais avoir stabilisé, je vais avoir atteint tous mes premiers objectifs, et je me dirai maintenant. Et donc c'est là où je peux rebondir sur ce que tu as cité précédemment, les identités numériques, les CV références, quelque part, ou d'autres choses. Après, ta question sous-entend surprendre. Ça va être intéressant, les ateliers de brainstorming d'innovation sur Ponos, je pense.
Donc tu laisserais la communauté décider, les devs décider, advienne ce que pourrira le service? Non, c'est le tien.
Alors aujourd'hui, c'est le mien parce que je suis seul aux manettes. Demain...
Donc, pour l'instant, tu es dictateur bénévole bienveillant. Peut-être qu'après, tu construirais un comité révolutionnaire de planification ?
Oui, mais pour pas me faire des amis, il faut être ancré, il faut une colonne vertébrale. Et c'est normal d'avoir 2-3 personnes. À mon avis, un produit fonctionne quand il y a 2-3 personnes qui ont soit une vision, soit une discipline dans leur façon de penser, de ce qu'ils ont projeté. Et après, ce qu'il faut pas, c'est qu'ils soient hermétiques à tout le reste. C'est très bien d'avoir cette colonne vertébrale, mais il faut s'ouvrir justement à « Ah tiens, il a dit ça, c'est pas con. Ah tiens, il y a ça qui se passe. » Puis beaucoup de mesures. Qu'est-ce qui marche vraiment ? Qu'est-ce qui se fait vraiment ? Enfin, tu vois, oui, on peut interroger toute la communauté des développeurs et il va y peut-être y avoir les meilleures idées qui vont arriver et celles-ci qui seront prises. Mais elles seront pas prises par le consensus. Elles seront prises par moi ou le petit groupe de personnes autour de moi qui ont une certaine cohérence et un certain ancrage vers une direction.
Et c'était justement la question, c'est finalement dans l'immédiat pour développer le service, qu'est-ce qui te manque ? Un business angel, une agence de pub ou une équipe de modérateurs ?
Je rebondis sur ce que je te disais, il me faudrait deux apports différents, un apport de réflexion produit et un apport d'accompagnement, pas fabrication mais déploiement, effectivement ça peut être un apport marketing, un regard infra, un regard archi, un regard UX. Et donc ça peut être un petit groupe de réflexion où on se prend une heure ou deux heures toutes les deux semaines ou toutes les semaines, j'en sais rien. On va les prendre aussi. Comme tous les projets open source, aujourd'hui c'est une personne et il faut qu'elle trouve le temps. Ce qui me coûte le plus, c'est pas l'hébergement, c'est le temps. T'as vu l'appel à l'aide du gars de Sudou encore en ce moment qui continue.
Oui.
Bon alors pour nous, rien à voir avec Sudou. Sudou est fondamental dans tous nos trucs. Ponos peut être remplacé demain par autre chose, il n'y a pas de problème.
Je tiens à signaler d'ailleurs que ton projet est sur un GitLab. Comment on peut suggérer tout ça ? Il faut aller sur ponos-job.eu et un petit peu discuter avec l'ensemble. C'est fait exprès d'ailleurs, les messages courts et tout ça, pour éviter les volubiles utilisateurs d'IA générative pour faire du texte avec des emojis partout pour dire que leurs cheveux sont plus beaux depuis qu'ils se nettoient au mazout. Donc, on ne va pas insister plus. Donc...
C'est aussi une volonté que les gens comprennent aussi que c'est une volonté. On m'a dit, il n'y a pas d'image. Non, mais tu as une image, tu fais un article de blog, tu mets ton image et c'est un pointeur vers. Moi, j'aimais beaucoup ce web qui a disparu. qui était pas si, qui était, il y a plein de petites maisons partout et on passe d'une maison à l'autre. Là aujourd'hui, t'as une grosse maison qui a toutes les images, tous les textes, tous les contenus. Non, on trouve un système qui te permet d'héberger 2-3 pages et tu fais pointer dessus. Donc le contenu n'est pas dans Ponos. Le contenu, Ponos est un ensemble de pointeurs. Plus. Merci à toi, Xavier.
Et bonne continuation, Pablo.